Maintenant, quasiment 5 ans après, c'est peut-être anecdotique, mais en 2015, on était trois frères à aller voir des gens de Rennes Talent à l'époque pour leur dire bah, dans 4 ans, nous, on aura des satellites en orbite et on produira de la donnée qu'on vendra au monde entier. Bon, donc forcément, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, mais ils nous ont quand même donné leur chance.
Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Je m'appelle François Allais, je suis le créateur de ce média et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Avant de vous parler un peu plus de l'épisode que vous allez écouter, je souhaitais vous informer que Serial Entrepreneur avait remporté le Westweb Awards 2020 du projet étudiant de l'année. J'ai créé ce podcast en décembre 2017 alors que j'étais en première année de master et je suis très honoré d'avoir remporté ce prix. Un grand merci aux votants et à la Westweb Valley pour cette belle organisation. Place désormais au sujet de l'épisode. Aujourd'hui, plus de 2000 satellites tournent en orbite autour de la Terre et de plus en plus de pays s'intéressent à l'espace. Que ce soit pour des usages de communication, d'observation de la Terre ou encore de navigation, le nombre de lancements n'a cessé de croître ces dernières années, plus de 800 satellites lancés entre 2017 et 2019. Ce qui va nous intéresser dans ce nouvel épisode, c'est comment trois frères ont eu l'idée de créer une société permettant de traquer tous les navires du monde depuis l'espace grâce à des satellites. Jonathan, Clément et Benjamin Galic sont les cofondateurs d'Unseen Labs, la première PME française à accéder à l'espace de manière autonome et totalement privée. Créée en 2015 et après plusieurs années de R&D, la start-up bretonne a lancé son premier satellite, le Bro One Braze Recon Orbiter, le 20 août 2019 sur la péninsule néo-zélandaise de Maya. Leur satellite possède des antennes capables de capter les ondes électromagnétiques émises par les navires en mer. Leur marché, la surveillance maritime. Les sujets que nous avons abordés durant cet épisode sont nombreux. Pourquoi avoir lancé Unseen Labs? Quel est leur background avant d'entreprendre? Pourquoi avoir choisi la surveillance maritime comme marché? Le fait de concrétiser un projet après 4 ans de R&D? Comment développer et lancer un satellite dans l'espace? Comment s'est déroulé le lancement de leur premier satellite? Qu'est-ce que la charge utile sur un satellite? Quelle taille fait-il? Quelle est sa durée de vie? Quelle est la législation dans l'espace? Tous les satellites dans l'espace sont-ils identifiés? Quel futur pour la start-up et quels objectifs? Avant de lancer l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour recevoir les prochains épisodes, de vous abonner sur YouTube pour voir les épisodes en vidéo, de vous abonner au compte Instagram Serial Entrepreneur avec un underscore à la fin. Moi, je vous souhaite une excellente écoute. On se retrouve désormais toutes les 2 semaines pour un nouvel épisode le dimanche à 10h. Ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis avec 3 entrepreneurs rennais qui ont cofondé Unseen Labs. Est-ce que vous pouvez vous présenter un par un?
Alors bonjour, moi c'est Jonathan Galic, je suis le frère du milieu et je suis président d'Unseen Labs et mon périmètre est plutôt technique, disons que je suis la référence technique de la boîte, même si évidemment j'assume le rôle de dirigeant aussi avec Clément.
Du coup, bonjour, moi c'est Clément Galic, donc je suis le plus jeune. J'ai été technique à une certaine époque, je le suis beaucoup moins. Et maintenant, je suis plutôt pour compléter avec Jonathan, on se complète. Donc lui, il est vraiment très très opérationnel technique. Et moi, j'ai plus la partie administration, finance de la société maintenant.
Moi, c'est Benjamin Galic, donc je suis le grand frère, on va dire ça. Je ne suis pas opérationnel dans la société, parce qu'à côté, je suis avocat d'affaires. Et je m'occupe de la partie légale d'Unseen Labs. Et puis, je suis aussi assez investi dans la stratégie de l'entreprise en tant que membre du comité stratégique, notamment.
Ok. Avant de parler d'Unseen Labs, est-ce que vous pouvez me présenter un peu vos différents parcours avant d'entreprendre, justement?
Alors, donc moi, j'ai commencé ma carrière sur Paris et très rapidement après, je suis revenu à Rennes. Et j'ai travaillé chez Niji, presque au tout début de Niji, pendant 3 ans. Donc dans les télécoms, pour les grands comptes, Microsoft, SFR, Orange. J'avais le rêve hein, et puis le background d'éducation, parce que je suis ingénieur Supélec à la base, pour faire du spatial, ce que j'avais envie de faire depuis longtemps. Mes compétences télécom ont aidé à ça aussi. Je suis allé rapidement travailler chez Airbus Defence and Space. À l'époque, ça s'appelait Astrium à Toulouse. Et j'ai travaillé sur les satellites fabriqués par Astrium à l'époque. Donc, satellites à l'export pour des pays à l'étranger. ou les satellites institutionnels, donc dans l'observation de la Terre. Voilà.
Du coup, moi, j'ai fait toute ma carrière pré-Unseen Labs, on va dire, à Toulouse. Moi, je suis un ingénieur de l'aviation civile à la base, donc j'étais à l'ENAC à Toulouse, et j'étais spécialisé en trafic aérien et système critique de gestion du trafic aérien. Donc en gros, c'est comment développer tous les outils pour les contrôleurs aériens, pour leur permettre de faire leur boulot au mieux et de manière la plus sûre possible. Donc j'ai travaillé pendant 6 ans pour la R&D de l'aviation civile à Toulouse, donc notamment pour des gros projets pour l'aéroport de Paris ou de manière générale pour l'assurance aérienne française. Et j'ai basculé au bout de quelques années dans le spatial par pure opportunité de projet sur Toulouse. Et je travaillais pour le CNES. Alors j'étais pas CNES, j'étais sous-traitant pour le CNES, où je dirigeais une ligne de développement, une équipe de développement pour le futur centre de contrôle de satellites du CNES, où j'avais la responsabilité de tout ce qui était communication sol-bord, donc satellite sol, c'est station au sol, et ça pendant 3 à 4 ans. Et ça, c'était juste avant de créer Unseen Labs.
Très bien.
Et pour ma part, je suis chef d'entreprise aussi par ailleurs, donc sur l'aspect création d'entreprise, je gère une petite PME d'avocats, et la spécialité, c'est qu'on intervient énormément pour les sociétés innovantes, pour des problématiques françaises ou internationales. Et puis, en ce qui me concerne, avec une appétence pour tout ce qui est techno. Enfin, voilà, donc je ne suis pas un homme du tout de la technique, mais j'aime bien comprendre. Et puis, du coup, je suis entouré de chefs d'entreprise brillants qui me parlent techno assez souvent. Donc, c'est vrai que c'est un milieu dans lequel je baigne. Voilà.
Et donc, Unseen Labs, on y vient. C'est quoi, du coup, Unseen Labs ? Comment ça a été créé, en fait ?
Alors, donc on a toujours eu un petit peu, les trois frangins, un souhait d'à terme créer une entreprise, hein, enfin, bon, si simplement dit que ça. On sait qu'on travaille très bien tous les trois ensemble et... voilà, donc on souhaitait se projeter à terme. Et en évoluant dans le spatial, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient vraiment pas abordées par les grands groupes, pour plusieurs raisons, on pourra y revenir après. Donc il y avait vraiment de la place pour des projets de plus petite envergure, au moins en termes d'équipe et de moyens, et créer de la valeur. Sur des services et des technos sur lesquels on avait encore le champ libre et des opportunités réelles en France. Et donc, en particulier, bon, on y reviendra sur les technos, hein, mais on fait du renseignement électromagnétique. On pourra dire ce qu'on fait après exactement, expliquer. Mais mes dernières années sur Airbus ont été centrées sur ce genre de techno. Et c'est des choses qui ne peuvent pas forcément s'apprendre à l'école ni dans des boîtes classiques. Le pool d'ingénieurs est assez réduit, d'ingénieurs qui travaillent dans le spatial, déjà en France à la base, et sur ce domaine en particulier, il est encore plus réduit. Donc les connaissances en fait, accumulées pendant ces deux années nous ont vraiment permis d'imaginer un projet intéressant et original, et nouveau, et porteur.
Du coup, pour compléter, c'est ça qu'on a toujours été... Benjamin nous a toujours dit que créer une entreprise... c'était pas si compliqué que ça quand on avait les bonnes idées et qu'on avait le bon savoir-faire, enfin qu'il fallait vraiment tenter l'expérience. Donc on avait, c'est vrai qu'on a toujours un petit peu cherché à pousser ça. Et de par l'expérience professionnelle de Jonathan, donc qui est expert mission satellite, donc en gros comment on utilise un satellite pour remplir une mission donnée, et moi qui avais des connaissances plutôt au niveau du sol, comment on parle avec un satellite, on avait une vue un petit peu globale d'un système complet satellitaire. Et avec l'émergence de nouvelles technologies, donc ce qu'on appelle le New Space, hein, des plus petits satellites à des coûts bien moindres que ce qu'on peut imaginer, et des choses tout à fait accessibles aux PME, et au bout de quelques années, on a un petit peu regardé ce qui se passait dans le reste du monde. On a vu que ça prenait dans certaines zones géographiques hors de l'Europe, on va dire, et que on avait peut-être une carte à jouer en amenant ce type de business en fait en France et en tentant l'expérience. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on a pris la décision de lancer Unseen Labs, sur les conseils évidemment de Benjamin aussi, et c'est aussi pour ça qu'on est rentré du coup en Bretagne, à la maison, à Rennes, et qu'on a créé il y a 4 ans et demi maintenant Unseen Labs.
Ok.
Je voudrais citer une petite anecdote. Citer un grand monsieur qui s'appelle Gilbert Kabilic, oui. qui est fondateur et ex-CEO de Flexicore et qui a travaillé chez Google après pendant quelques temps, qui est quelqu'un avec lequel on aime bien échanger. Et au tout début du projet, en fait, on avait plusieurs idées. On itérait sur différentes idées techniques, voilà. Et puis, on s'est permis d'échanger avec Gilbert Kabilic sur ses idées. Et à un moment, sa conclusion a été de dire, les gars, faites ce que vous savez faire. Faites ce que vous savez faire. Plutôt que d'aller dans des domaines techniques, et certes nouveaux, palpitants, mais finalement, vous êtes des hommes de l'art, des hommes du métier dans le spatial, Jonathan et Clément. Et donc, allez-y, le spatial, pourquoi pas ?
Oui, parce que c'est important ce que dit Ben, parce qu'il y a déjà le fait de faire une start-up slash PME du spatial, c'était déjà assez impressionnant en fait à la base, et se centrer sur ce domaine très pointu et du renseignement électromagnétique, en fait, même nous, on n'osait même pas l'imaginer, dans le sens où c'est des technos qui sont utilisés que par les États et les gros, Russie, Chine, États-Unis et France. Et donc de là, donc de passer du très étatique techno, limite employé que par les militaires, hein, vers la start-up, la PME, c'est vrai que ça fait un vrai saut que même nous, on a eu du mal à franchir mentalement et que Gilbert nous a fait franchir par sa remarque.
Et donc moi, ce que j'ai compris d'Unseen Lab, ce sont des satellites pour de la surveillance maritime, c'est ça ?
Tout à fait.
Et maintenant, j'aimerais aborder les grandes étapes depuis la création, donc en 2015. Quelles ont été les grandes étapes de votre boîte ?
Alors, je vais commencer déjà par dire, OK, on fait de la surveillance maritime, mais ce qu'on fait, c'est capter les ondes radio en provenant du sol ou d'ailleurs, et qui nous permettent de rendre ce service de surveillance maritime. Mmh. Donc on repère les navires avec leurs émissions radio ou radiofréquence au sens large. Hein. Quand je parle de radio, c'est pas forcément de la radio audio, quoi, on va dire. Donc le projet Unseen Lab, c'est vraiment opérer des systèmes qui localisent et caractérisent des émetteurs. La surveillance maritime est un premier service slash marché que nous abordons. On pourra parler de ça plus tard, l'assurance maritime. Les grandes étapes, c'est déjà passer le cap de on sort de nos boulots bien confortables de chez les grands industriels pour prendre le risque de faire quelque chose par nous-mêmes et de revenir à Rennes, hein, comme l'a dit Clément. Revenir
vous
à Rennes.
Étiez où avant ?
J'étais à Toulouse aussi.
Toulouse.
Ouais.
Okay.
On était tous les deux à Toulouse. Et donc revenir à Rennes dans un écosystème favorable, bien entouré, avec une dynamique positive qui est celle de la Bretagne. Quoi.
Juste pour rajouter un petit point sur l'écosystème, c'est vrai que maintenant, quasiment 5 ans après, c'est peut-être anecdotique, mais en 2015, on était trois frères à aller voir les gens de Rennes Atalante à l'époque. Pour leur dire, dans 4 ans, nous, on aura des satellites en orbite et on produira de la donnée qu'on vendra au monde entier. Bon, donc forcément, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, mais ils nous ont quand même donné leur chance. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait peut-être mis une pièce sur nous dans plein d'endroits. Mais c'est vrai qu'en arrivant à Rennes, avec un projet qui peut paraître fou, ils nous ont quand même donné notre chance et ils nous ont fait rentrer dans leur programme d'incubation. Et ça a permis de lancer la société avec, comme disait Jonathan, un bel écosystème. À Rennes, on n'a vraiment pas à rougir de ce qui peut se passer ailleurs en France, et en Bretagne particulièrement non plus. Donc je crois que le choix était plutôt positif et à aucun moment on regrette, je pense, ce mouvement. Quoi.
Et l'étape suivante, du coup, après Rennes Talent et l'incubation Emergis, c'est le concours iLab pour
c'est
vous
ça. C'est parce que donc c'est un beau projet. Comme on disait, c'est du new space. Donc au niveau finance, ça n'a rien à voir avec du spatial plus traditionnel. Mais ça reste quand même des beaux budgets. Donc l'idée, c'était quand même de pouvoir travailler les premières années en totale indépendance. Donc réussir à faire financer bêtement de la R&D hein, pendant plusieurs années. On avait de la chance de produire des choses. On avait déjà un peu de chiffre d'affaires sur des choses un peu annexes. Ce n'est pas le cœur du projet. Mais ça ne finançait pas du tout notre R&D. Donc c'est vrai que, comme le dit Benjamin, on a suivi le cursus classique, on va dire, de la PME d'innovation en France, via BPI France particulièrement, qui nous ont bien soutenus aussi, et notamment au travers du concours iLab. Donc en 2015, 2016, iLab 2016. Donc on a été quand même élu grand prix iLab, c'est-à-dire qu'on a fait partie des 5 dossiers mis en avant. Et on a eu la plus grosse dotation à cette époque-là du ministère de la Recherche, qui nous a permis de financer de manière très sereine la R&D pendant quelques années.
Oui. Sans lever de fonds, du coup, donc ça, c'est plutôt intéressant quand même.
Tout à fait. Et le mot serein que Clément a employé est vraiment pas neutre. Parce que dans ce milieu-là, soit les gens ne comprennent pas forcément le projet, ne voient pas l'ambition. Donc en financement, poursuivre le financement, c'est pas forcément évident. Soit on fait appel à des gros industriels qui comprennent très très bien et donc qui mettent la pression pour récupérer les assets techno et les idées. Voilà, donc on passe du rien à tout, et la solution intermédiaire qui est un peu de financement pour nous laisser travailler et pour avoir une maturité suffisante pour se protéger, c'est une étape fondamentale.
Et du coup, ça passe bêtement par du financement, ce qui est largement faisable ici. On l'a vécu. Donc, okay. Pour témoigner.
Mais la levée de fonds, il y a un moment donné,
elle arrive après.
Faire le plein de la fusée.
Faire le plein de la fusée, oui. Ouais. Au bout de 2 ans, il fallait trouver d'autres moyens pour... trouver la fusée, mettre du kérosène dedans, faire construire le premier satellite, le premier système.
C'est ça. Parce que dans tout ça, il faut bien voir que dans un budget comme ça, il n'y a pas que de la R&D. Là, Benjamin Jonathan en parle, le kérosène dans la fusée, c'est bête, mais c'est presque un tiers du coût du projet. Et ça, on peut comprendre que ce soit un peu compliqué à financer. Et donc, les fonds propres, ça reste quand même la meilleure méthode pour financer ce genre de choses. Parce qu'il faut bien voir qu'on brûle quelques centaines de milliers d'euros en quelques minutes. Donc, dans un business model, c'est compliqué à intégrer. Donc voilà.
Il faut bien l'expliquer.
et bizarrement, on n'a pas trouvé à mettre en location financière un crédit bail sur une fusée. Non. On n'a pas réussi à trouver ça comme mode de financement.
L'amortissement n'était pas très favorable.
Non, ça rentrait pas en les cases.
Donc, c'est vrai que dès 2017-2018, enfin 2017, on a commencé à chercher... Il a fallu faire la preuve quand même de notre capacité à pousser un projet comme ça jusqu'au bout. Et on a eu la chance, je crois, d'avoir la création du fonds d'investissement, donc DEF Invest, qui est le fonds d'investissement BPI France DGA, donc ministère des Armées, qui eux, du coup, avaient une très bonne visibilité de leur point de vue du côté stratégique d'une technologie. Une technologie comme ça, c'est pas plus mal si elle reste en France. Et que du coup, avoir des assets financiers qui nous permettent de le développer, ça nous permet tout simplement de rester en France et de travailler encore une fois sereinement et d'avoir les reins assez solides financiers pour pouvoir lancer quelques satellites, faire la démonstration que tout ce qu'on dit depuis le début, c'est réalisable et en plus ça fonctionne en orbite. Et voilà.
Et ça ramène de la valeur.
Et ça ramène de la valeur, ça crée de l'emploi. Et
il y a des clients.
Ouais. Ok. Donc vous avez levé 7,5 millions d'euros, c'est ça ?
C'est ça.
L'année dernière ?
Oui, mi-2018.
Ouais, ok. Et on va parler forcément du lancement du premier satellite en août dernier. Donc décollage du premier satellite depuis un site de Rocket Lab à Maya en Nouvelle-Zélande. Déjà, c'est quoi Rocket Lab ?
Alors Rocket Lab, c'est du New Space aussi, mais côté lanceur. C'est-à-dire qu'ils travaillent depuis une dizaine d'années, maintenant 15, pour faire un projet de lanceur, donc une fusée qui est destinée au marché des petits, voire très petits satellites. Donc eux, c'est des Néo-Zélandais, hein, ils se sont fait racheter par les Américains assez rapidement, mais ils restent dans l'âme très néo-zélandais. Les équipes, les ressources humaines sont à Auckland. Voilà, donc la partie américaine est seulement, je veux dire, financière. Donc ils ont réussi ce que nous, on a réussi un peu à une autre échelle, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire une fusée qui fonctionne très bien, qui est fiable et avec un coût assez compétitif. Et surtout, ils ont réussi le tournant. Quand on parle de start-up, on parle d'agilité, de réactivité, au moins comparé avec ce qui existe historiquement. Donc ils ont réussi à franchir ce virage aussi, d'être réactif, de proposer des contrats du 21e siècle et pas du 20e siècle. Et donc ça faisait tout à fait sens, on les a trouvés, et ça faisait complètement sens par rapport au projet. Donc, on pourra parler, si vous le souhaitez, après de l'écosystème des lanceurs. Mais, donc, ils étaient tout récents. On était sur leur huitième vol. Huitième vol en quasiment moins d'un an. Donc, le premier tir moins d'un an avant. Donc, déjà, on voit la cadence de tir et la réactivité et le succès.
Je sais pas si... Justement, comment s'est déroulé le lancement du satellite ?
C'est impressionnant.
C'est impressionnant.
C'était la première fois que vous assistiez à...
Non, j'en avais déjà vu un tir d'Ariane 5, mais quand c'est son propre satellite et sa boîte qui part, c'est autre chose. Ouais.
Pour le coup, là, le terme serein n'était pas d'actualité, non.
Qu'est-ce que ça vous a fait, justement, après 3 ans de R&D, de voir ce projet se concrétiser, en tout cas le premier satellite de ce projet se concrétiser?
C'est impressionnant, mais en fait, quand le tir... Alors déjà, la fusée n'explose pas. Elle a l'air de partir sur la bonne trajectoire, mais là c'est pas gagné parce qu'il faut encore attendre le premier contact avec le satellite. Donc tout le monde se réjouit du tir qui est successful, mais l'étape d'après c'est est-ce que le satellite s'allume, et l'étape d'après c'est est-ce qu'il fonctionne, et l'étape d'après c'est est-ce que les données collectées sont de bonne qualité et au moins du niveau d'attente pour un service commercial. Donc en fait c'est une succession de petites étapes dont le tir est une étape importante.
C'est quoi le pourcentage de réussite il est faible ou il est...
Il est élevé le pourcentage de réussite, mais voilà, quand c'est 4 ans de R&D, il faut dire que ce qu'on fait, c'est des choses qui sont quasiment insimulables sur Terre. C'est-à-dire que notre job, c'est de vérifier qu'on a de très 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 bonnes chances que ça fonctionne. Voilà. Après, il faut voir... la réalité. On a de la chance, ça fonctionne très 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 bien, mais voilà.
Mais c'est un moment qui est quand même magique hein, pour une boîte en général, et puis là c'est pour un projet de 3 frères, c'est un moment assez incroyable, mais comme disait John, en fait c'est à peine la fusée décollée, on la voit plus, qu'on lançait un compte à rebours pour aller vérifier, donc retourner sur les PC, les ordinateurs de la boîte pour commencer en fait, les travaux d'après pour être en contact avec le satellite. Et puis, donc, ça ne s'arrête jamais, en fait.
Parce que, c'est important ce que dit Benjamin, c'est important ou rigolo ce que dit Benjamin, c'est qu'on était en pleine campagne. C'est-à-dire que le pas de tir en Nouvelle-Zélande, c'est un pas de tir en Nouvelle-Zélande, c'est pas la Floride. C'est sur une pointe d'une péninsule où il y a la fusée qui est prête à partir. Et donc nous, pour pouvoir le regarder en direct, on était un petit peu dans la campagne, reculé. Donc zéro connexion, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas Internet, on n'avait rien. Donc l'idée, c'était vraiment, une fois que la fusée n'avait pas explosé et était a priori sur la bonne trajectoire, de prendre les voitures au plus vite, rentrer à un endroit où on avait de l'Internet pour pouvoir communiquer avec les équipes de Rocket Lab et essayer de parler avec le satellite.
Et recevoir les 150 000 SMS de félicitations, alors qu'on n'était même pas au courant que ça avait fonctionné.
Ouais. Alors, il y a un aspect, il y a l'aventure d'entreprise, et puis là, c'est une aventure dans l'aventure qui est juste incroyable. Enfin, ça reste vraiment...
Oui, ça qui est très drôle, c'est que les gens restés en France ont su avant nous que ça avait fonctionné.
Parce que le tir était
diffusé en direct.
Diffusé en direct sur YouTube.
Ok. Ouais, c'est cool. Et donc justement, est-ce que à quel moment vous avez eu des news de ce satellite ?
45 minutes après, donc l'orbite était injectée sur une orbite qui avait le bon goût de passer au-dessus de Rennes 45 minutes après. On aurait pu très bien attendre 3 heures ou 6 heures en fonction de la dynamique orbitale, mais là on a eu de la chance. C'était prévu, hein, mais voilà, souvent au premier contact, donc il faut dire le satellite déploie ses antennes, il se passe pas mal de choses sur lesquelles on met des timers, donc c'est pas choquant. Disons que ça aurait pas été choquant si on n'avait pas eu le premier contact au bout de 45 minutes, on aurait été juste inquiet quelques heures de plus. Mais là, ça s'est vraiment bien goupillé. Donc premier contact 45 minutes après, donc satellite il fait bip, hein, il dit. Au moins, il s'est allumé, quoi. La batterie fonctionne, l'antenne de com fonctionne. Et on s'est permis de faire un peu la fête, quand même.
Oui, c'est normal. donc justement, on va parler de satellites et d'espace. Enfin, l'espace, c'est quelque chose quand même qui fascine beaucoup de gens. Et j'aimerais savoir comment on développe un satellite. Quel langage on utilise, quel techno, justement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus?
Alors là, pour le coup, c'est un aspect important du projet, dans le sens où on a pris un peu à contre-pied ce qui se fait dans l'industrie classique du spatial. Alors, pas en termes de matériel hein, strictement, c'est-à-dire qu'un satellite, qu'il soit tout petit ou très gros, il y a des éléments fondamentaux, hein, des panneaux solaires, des batteries, une série de senseurs pour que le satellite ait conscience de là où il est et comment il est orienté, des ordinateurs et des éléments de communication vers le sol, plus la charge utile, donc les éléments électroniques, on en reparlera sûrement après, mais qui fait le job. Là où on a pris vraiment l'industrie à contre-pied, c'est sur la partie justement langage, la façon d'opérer le satellite. Donc toutes les technos un peu spatiales, qu'elles soient américaines, russes, européennes ou chinoise, c'est des protocoles propriétaires, c'est des milliers d'ingénieurs qui travaillent sur des systèmes avec des langages hyper spécifiques. Et nous, on s'est dit non, c'est pas ça qu'il faut faire. On n'a pas la force de frappe déjà. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser les composants logiciels et langages du commerce, hein, de l'industrie. Il y a des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans le spatial, mais il y a des millions, des dizaines de millions de personnes qui travaillent sur les systèmes d'information classiques, hein, Internet, Google, Facebook et tout ça. Et en fait, les outils qu'ils produisent et qu'ils valident, qui sont des millions d'utilisateurs, enfin des milliards d'utilisateurs et des millions de personnes qui travaillent sur les lignes de code, ont sûrement plus raison que les centaines de milliers de personnes qui travaillent dans le spatial et qui font du spécifique. Donc là, on est parti là-dessus dès le début. Et donc, ça ramène de la qualité de service, ça ramène de la confiance en termes technologiques, hein, je veux dire. Et ça ramène des économies, des économies de développement et plus la petite touche moderne qui, paradoxalement, n'existe pas. Pas trop dans le spatial classique. Quoi.
Ok.
Voilà. Donc c'est du Python. Hein.
C'est codé comme un logiciel.
C'est du Linux, du Python, ouais. Des libs de chiffrement et de compression et de sur lesquels une fois de plus on ramène, comme le disait Benjamin tout à l'heure, ce qu'on sait faire. Voilà. Ouais. On ramène notre valeur ajoutée sur un socle existant et flexible et éprouvé.
Et donc.
Peut-être juste pour compléter, hein, donc Jonathan décrit très bien ce qu'on a fait, nous, dans ce qu'on appelle le New Space. Ce n'est pas pour dire que tout ce qui se fait dans le spatial plus traditionnel ne fonctionne pas et doit disparaître, ça. Loin de là. Les gros projets étatiques, les très gros satellites, ça ne se gère pas comme nous, on a géré notre projet et c'est normal. Donc c'est bien pour insister sur le fait qu'il y a ces deux écosystèmes qui sont voués à exister en parallèle. Et à travailler ensemble. Donc, c'est vraiment pas pour dire du mal de ce qu'on a, nous, on a pu faire avant sur les systèmes spatiaux ou la façon dont les gros industriels travaillent. Mais c'est juste que cette façon agile, beaucoup plus adaptée à une société comme la nôtre et à pousser des choses très très innovantes, nous, c'était notre façon de le faire.
Okay.
Et ça a plutôt bien fonctionné.
Et concernant votre premier satellite, quelle taille fait-il ? Quelle est sa durée de vie ?
Alors quand on parle de petits satellites, on est vraiment dans les très petits satellites. Donc c'est la classe des nanosatellites, donc c'est moins de 10 kilos. Nous, le nôtre fait aux alentours de 10 kilos. Et pour vous donner une image de taille, c'est une grosse boîte à bottes. C'est-à-dire que le satellite fait 30 cm par 20 cm par 10 cm. Donc c'est ce qu'on appelle un CISU. Donc CISU, c'est les cubes satellites. Alors, on parle de U. Un U, c'est un carré élémentaire de 10 cm de côté. Et en fait, après, on agrège ces carrés élémentaires pour fabriquer à façon le satellite dont on a besoin. Donc nous, c'en est 6 qui sont mis sous forme d'une grosse boîte à chaussures. Voilà.
Ok. Et la durée de vie du satellite ?
La durée de vie, oui. Alors, c'est une durée de vie non négligeable. C'est-à-dire que nous, il devrait durer entre 5 et 7 ans. On est en orbite basse. Donc on est entre 500 et 600 km. Donc c'est un petit peu au-dessus de l'ISS, pour donner une idée. Et évidemment, comme disait Jonathan, on reste dans l'espace, donc on est soumis aussi aux conditions spatiales, hein. Les éruptions solaires,
les
mauvais protons qui passent par-ci, par-là. Donc là, la durée de vie de l'électronique devrait être de 5 à 7 ans. Après, c'est de la vie dans l'espace.
Rien n'est sûr.
On a de très bonnes chances que le satellite n'explose pas d'ici les 5 prochaines années.
C'est ça.
Ok. Oui, parce qu'il y a des estimations, j'imagine.
C'est des estimations, mais ça, c'est une
part importante. Des prévisions, potentiellement.
C'est plus que des prévisions, c'est-à-dire que nous, dans le cœur d'Unseen Labs, c'est vraiment développer les instruments à bord des satellites. Nous, on n'est pas ce qu'on appelle plateformiste. Donc, les plateformistes, ce sont ceux qui développent les plateformes satellites. Donc, c'est les panneaux solaires, c'est les batteries, c'est les senseurs dont parlait Jonathan. Nous, l'idée, c'est de ne pas réinventer la roue. C'est un projet d'ingénierie.
Faire ce qu'on sait faire.
On fait ce qu'on sait faire. Donc, c'est les charges utiles. Donc, on sait approvisionné, on a acheté tout simplement des plateformes donc nanosatellites donc chez Gomspace pour l'instant, qui sont des Danois, parce qu'eux-mêmes ont déjà pas mal de satellites qui ont volé, qu'ils ont un très bon retour d'expérience. Et si on peut là affirmer et dire que normalement ils devraient vivre entre 5 et 7 ans, c'est parce que leurs plateformes sont déjà en orbite depuis quelques années et ont prouvé qu'elles duraient dans le temps et qu'elles fonctionnaient.
Donc, tu parles de plateforme, c'est-à-dire ?
Alors, la plateforme, c'est le satellite ouais. hors la charge utile, on va dire. C'est okay. les panneaux solaires, oui. c'est les moyens de communication, c'est tout ce qui n'est pas sous notre responsabilité. Okay. En fait, c'est un moyen de, aussi de limiter les risques. C'est-à-dire que nous, en tant que petite société, on accepte de prendre les risques sur notre part, donc la charge utile, notre instrument dans l'espace. Par contre, le reste de la plateforme, bah, on travaille avec les gens qui ont prouvé que leur système fonctionnait et qui nous permettent d'avoir une confiance d'assez haut niveau dans leur capacité.
Donc je précise, hein, ce n'est pas du partenariat, on a acheté de la prestation de service et du matériel, hein, donc en co-ingénierie évidemment, parce que c'est des systèmes très très modulaires, et donc on achète un système qui a été taillé sur mesure pour nous, hein. Pour notre besoin, mais ceci dit, ça reste du composant sur étagère. Et la remarque de Clément est très juste, hein, sur la justification de la durée de vie. C'était un élément typiquement pour la levée de fonds ou pour n'importe quelle étape de développement. C'est déjà assez fou comme projet, donc on va pas non plus aussi réinventer la roue et fabriquer nous-mêmes le satellite, quoi. Et donc on est des techos, ça, on est des ingénieurs, mais on fait un vrai projet d'ingénierie. C'est-à-dire que on prend les risques là.
Peut-être ce qui peut être bien, c'est de réexpliquer ce que c'est que la charge utile, parce que pour nous c'est très clair, mais la charge utile, c'est pour le coup ce que vous savez faire, et peut-être décrire ce que c'est.
Carrément.
Alors la charge utile, quand on parle d'un satellite, on n'envoie pas des choses dans l'espace pour rien faire, ils ont un objectif, une mission, ils rendent un service, donc la charge utile, c'est les composants qui rendent ce service. En opposition à les composants qui permettent à la charge utile de vivre dans l'espace et de rendre son service.
Ouais.
Donc un satellite qui prend des photos, bah, sa charge utile, c'est une caméra, un télescope, quoi, qui prend des photos. Nous, notre charge utile, donc, qui rend le service, c'est un système d'antennes qui capte et localise les émetteurs radiofréquences au sens large, qui amplifient ces signaux, qui appliquent des traitements informatiques sur ces signaux, qui les mettent en forme et qui les rendent à la plateforme pour que la plateforme elle-même les communique vers le sol.
Ok.
Voilà.
Très bien. Comment on fabrique un satellite, justement ? Vous avez fait appel à un partenaire, enfin pas un partenaire justement de la prestation de service. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus, sur la fabrication du satellite ?
Alors la fabrication elle-même, donc comme disait Jonathan, nous tout ce qui était hors charge utile, donc hors Unseen Labs, on a vraiment pris des choses sur étagère.
C'est ça.
Donc quand c'est comme ça, bah il y a toute une partie d'échange technique entre Unseen Labs et le fournisseur de la plateforme, du coup, pour que la plateforme corresponde à notre mission. C'est-à-dire que évidemment toutes les exigences, tous les besoins sont faits par Unseen Labs. Après, c'est des trade-offs, des propositions techniques qui sont acceptées ou non par nos équipes pour arriver à un design du satellite complet qui nous permet de s'assurer que notre mission soit bien remplie dans l'espace. Après, bah, c'est de la quincaillerie, entre guillemets. C'est-à-dire c'est de l'approvisionnement de matériel, d'électronique. Tout est fabriqué sur place dans les équipes de notre fournisseur. Tout est assemblé. Il faut savoir que je crois que c'est une journée d'assemblage.
À peine une journée. Ouais.
Donc
avec les bons plans, on met le fil rouge sur le fil rouge.
C'est ça. Donc ça va très très vite une fois que tout est carré. Sur ça, nous, en gros, on rajoute après notre intelligence, toute la partie charge utile qu'on intègre sur cette plateforme. Et en fait, à la fin de l'opération, une fois que tout est fabriqué en une journée, testé, ça prend un peu plus qu'une journée, et validé au sol, et ben en fait, Unseen Labs devient propriétaire du satellite. C'est-à-dire que c'est important, ce que disait Jonathan tout à l'heure, c'est que ce n'est pas un partenariat. Vraiment, on achète du matériel et on est propriétaire du matériel. Et, en fait, et après la mise en orbite, du coup, on devient opérateur satellite. Donc actuellement, en fait, Unseen Labs est opérateur satellite et produit la donnée avec ses propres satellites.
Mais on se focalise sur le satellite, mais il faut voir que c'est qu'une sous-partie d'un système. On parle de segment spatial pour la partie du système qui est dans l'espace, mais on parle de segment sol pour la partie qui est au sol. Et cette partie au sol est loin d'être négligeable.
Ouais,
et là, on retrouve du business un peu classique de l'IT. Je parlais des télécoms et, au début de ma carrière, mais c'est un système d'information qui reçoit, déjà qui commande le satellite, qui transcrit les ordres humains en ordre interprétable par le satellite, qui récupère les données du satellite. Et qui récupère les requêtes, même jusqu'au client. C'est-à-dire que on fait du spatial, on s'amuse bien à faire des satellites, mais l'objectif c'est du business avec des clients. Et donc la partie récupération des requêtes clients et mise en forme des produits de data de surveillance maritime et pour les pousser vers le client, et toute la partie infra qui est au milieu, hein, voilà, est loin d'être négligeable. Mmh. Et après une partie conséquence aussi de la R&D d'Unseen Labs avant le tir.
Ouais. Et on va forcément en parler, mais je veux juste terminer sur la partie satellite. Quand on a notre satellite de fabriqué, à partir de quel moment on le lance dans l'espace du coup?
Alors le satellite fabriqué, donc fabriqué en une journée, testé en plusieurs mois. Testé, mis en
forme. Comment il est testé du coup
Alors il est testé fonctionnellement. On teste tous les sous-systèmes électriques, toutes les lignes de code. Et après, il est mis sous vide thermique, on appelle ça. C'est dans un four, dans une enveloppe qui permet de faire du froid, très froid, et du chaud, très chaud. En fonctionnement, on le passe dans des bancs d'essai, ce qu'on appelle le dégaussing. C'est pour le rendre neutre magnétiquement, parce qu'à l'intérieur, on a des senseurs qui mesurent le champ magnétique terrestre pour l'orientation et la position. Donc une succession d'étapes comme ça, fondamentale et assez longue de tests et de préparation du satellite. Une fois qu'il est prêt à tester, on le garde protégé, c'est-à-dire qu'il est fabriqué et testé dans des salles blanches, donc ce sont des salles très très propres. Donc là, pour le transport vers le pas de tir, il faut le garder dans des conditions équivalentes, hein, c'est-à-dire c'est des pellicases, des boîtes conditionnées atmosphériquement et sous pression. On évite de trop le secouer, parce qu'il va être déjà très secoué dans la fusée, donc si on peut lui épargner des vibrations avant ça, on lui épargne. Donc là je parle du transport vers le pas de tir. Donc on a fait Europe, France vers Nouvelle-Zélande, donc on a traversé la moitié de la planète. On l'a pris en bagage en soute, enfin en bagage à main, je veux dire, dans l'avion avec nous, pour d'autres raisons aussi, pour des raisons, on ne veut pas le perdre de vue, ça reste très sensible, donc on veut maîtriser l'ensemble de la chaîne. Et on arrive sur un mois avant le tir à peu près, ce qui est aussi très très court par rapport au lanceur classique. On le ramène au pied de la fusée, donc il est intégré dans le troisième étage de la fusée. Et par intégré, c'est mis dans une boîte branchée à la fusée. Hein. Donc là, on refait une dernière batterie de test, on charge les batteries à fond avant. On le laisse dans les bonnes mains du lanceur.
Okay.
Et ce premier satellite, on va quand même donner son nom, il s'appelle Bro-1. Bro-1, donc Bro comme Brothers,
ouais.
Mais aussi comme Brave Recon Observer numéro 1. Voilà, donc il y a un lien avec l'aventure en Bretagne des frères.
Super.
Un peu de marketing, ça fait pas de mal.
Il paraît beaucoup de technique, je me permets.
et pour continuer là-dessus... C'est quoi la typologie des satellites? Quels sont les différents types de satellites, justement? C'est en fonction de la taille? En fonction en fonction de quoi, en fait?
Alors, les satellites, on peut faire trois grands groupes fonctionnels.
Ouais.
Il y a tout ce qui est science, et GNSS, on appelle ça, c'est typiquement le GPS. Donc, c'est les sondes spatiales dans le système solaire, les atterrisseurs et tout ce qui est... repérage de position, c'est une première catégorie. La deuxième, c'est les télécommunications, donc les satellites qui rendent des services d'échange de data. On connaît les historiques, ce sont les géostationnaires là, qui donnent depuis une dizaine d'années le broadcast TV et ce genre de service. Et la troisième catégorie, c'est l'observation de la Terre. L'observation de la Terre, c'est regarder la Terre avec plein d'outils, donc des radars qui émettent des ondes vers le sol qui récupèrent l'onde réfléchie pour faire de l'imagerie radar, l'imagerie optique, donc avec des photons visibles ou proches infrarouges ou ultraviolets. Ça, c'est les images classiques qu'on a l'habitude de voir. Et la troisième catégorie, un petit peu plus confidentielle, c'est justement ce qu'on fait, c'est l'observation de la Terre dans les ondes radio. Voilà. Donc ça, c'était un peu les segments un peu de missions remplies par les satellites. Après, il y a les segments, Clément en parlait un petit peu après, de taille, de masse et de taille. Donc là, il y a les énormes satellites. Je pense aux satellites météo, par exemple, qui sont une forme d'observation de la Terre. Là, c'est des bus, les machins. Hein. Enfin, ils font 15 mètres de long, 13 tonnes. Et voilà. Entre les deux, on va dire, il y a la catégorie de satellites optiques, type image Google Earth, bon, qui peut aller de l'image basse résolution classique civile à l'image haute, voire hyper haute résolution pour des besoins militaires, satellites espions, hein, en gros. Là, ils sont plutôt autour de entre 500 kilos et une tonne. Voilà. Et puis après, on passe dans la classe des microsat, ouais, vers 50 kilos, et comme le disait Clément, nanosat, voilà, vers 10 kilos.
Et votre premier satellite, il fait de la surveillance maritime. Il couvre combien de surface de la planète
Alors là, du coup, si on rentre vraiment dans le service, ouais, on a choisi la surveillance maritime parce qu'il nous fallait un marché porteur et très adapté à ce qu'on faisait. Donc en fait, on a choisi la surveillance maritime parce qu'on a une capacité de localiser et caractériser tous les bateaux à la mer. C'est-à-dire que classiquement, la surveillance maritime se fait avec des transpondeurs sur les bateaux, comme il y a sur les avions. Sauf que, évidemment, dès qu'un capitaine ou quelqu'un veut commettre une activité illégale ou ne veut pas être suivi, même pour des raisons légales, il suffit de couper les transpondeurs et les bateaux disparaissent. Donc nous, on a une capacité de suivre les bateaux, même, pour faire très simple, hein, une fois qu'ils ont coupé leur transpondeur, on peut continuer à les localiser. Donc ça nous permet de combler un trou dans la raquette de toute la puissance de la surveillance maritime au monde. Après, pour ce qui est de la couverture, en fait, il faut bien voir que nous, on est sur une orbite donc, qui tourne autour de la Terre. Donc, en fait, on a accès à la totalité de la Terre. Mais c'est plus une histoire de revisite. Dans l'espace, on parle plutôt de revisite, c'est-à-dire c'est à combien de fois par jour, par heure, par mois, on passera exactement au-dessus de la même zone. Donc, globalement, on couvre la totalité de la Terre, mais pas forcément avec une revisite très élevée. D'où l'intérêt, nous, vraiment notre projet, c'est basé aussi sur le déploiement d'une constellation de satellites. Donc c'était d'en envoyer quelques dizaines, une trentaine par exemple, pour pouvoir donc, continuer à couvrir la Terre, mais avec une revisite élevée. Un satellite tout seul a une revisite comprise entre 12 heures et 48 heures. Deux satellites, et bah, vous divisez par deux, cette revisite, ainsi de suite. Donc l'idée, c'est d'avoir du quasi-temps réel. Donc le temps réel, c'est encore la science-fiction, hein, le vrai temps réel depuis l'espace, mais du quasi-temps réel, descendre à moins de l'heure de revisite, c'est déjà...
Ce qui fonctionne bien pour les navires. Un navire, en une demi-heure, il n'a pas fait non plus 200 km. Donc là, avec plusieurs satellites, comme Clément disait, à partir d'une dizaine jusqu'à une trentaine, on peut avoir du service de tracking, commencer à suivre les navires, et avec donc, tous les use cases et tous les services qui vont avec, quoi.
Ok. Et maintenant, on va enchaîner sur l'espace. Ce qui m'intéresse, c'est la législation dans l'espace. Comment ça fonctionne? À qui appartient l'espace? Est-ce que ça appartient à quelqu'un? À des États? Je ne sais pas.
Alors non, il y a un principe de non-appropriation de l'espace, hein, comme pour la Lune, mais en fait, c'était réglé par des conventions internationales depuis les années 70. Pour que les États, une majorité d'États, en fait, se sont mis d'accord sur un mode de fonctionnement. Donc il y a un mode de fonctionnement, on va dire, global, planétaire. Et puis après, chacun des États spécifie des régulations qui leur sont propres. Voilà. Donc il y a deux niveaux. Il y a un niveau international, avec une législation notamment sur les fréquences et les licences aussi pour de tirs de fusée. Et un niveau étatique, où là, on va préciser au niveau de l'État quelles seront les contraintes de réglementation à respecter. Voilà, donc ça veut dire que c'est un environnement quand même qui est très encadré. Enfin, ça, tout le monde s'en doute un petit peu. Donc il y a vraiment un processus de régulation fort et qui est un processus qui est quand même assez évolutif. Enfin, on a des étapes qui ont été franchies depuis les années 70. Il y en a d'autres qui vont être franchies. Il y a des problématiques aussi de qualification de ce qui peut être fait dans l'espace ou pas, la question des données, la question du matériel qui peut être envoyé dans l'espace. Et puis là, on parle juste de la partie spatiale au-dessus de la Terre. Mais après, il y a le deep space, il y a encore d'autres problématiques justement liées aux astéroïdes, par exemple. Les États-Unis ont décrété il y a peu de temps, c'était Obama, que voilà, certaines entreprises américaines pouvaient avoir un monopole d'exploitation sur certains astéroïdes si elles lançaient des projets permettant d'exploiter des minerais, l'eau, etc. Donc c'est une position qui a été prise par un État qui pour l'instant n'a pas été relayé par d'autres, mais ça pose des problématiques géopolitiques très fortes.
Ouais, c'est sûr. Voilà. Et est-ce qu'il y a une surveillance de l'espace ? Est-ce qu'on sait, par exemple, aujourd'hui, autour de la Terre, combien il y a de satellites ? À qui appartiennent ces satellites ? Est-ce que c'est justement...
Alors ça aussi, c'est une vieille histoire et assez intéressante, dans le sens où oui, on a des, on suit les satellites. Alors c'est difficile de voir des satellites avec un télescope, par exemple, mais on a des systèmes radars qui sont dirigés vers... Vers l'espace pour repérer les trajectoires et compter les satellites. Donc déjà, quand on parle de satellites espions, c'est pas vrai, c'est-à-dire qu'on voit tous les satellites. Ce qu'on sait juste pas, c'est qu'est-ce qu'ils font exactement, parfois dans certains cas. Et donc là, il y a eu forcément les Américains, hein, les plus forts, mais vraiment, c'est-à-dire qu'ils avaient les premiers radars pour faire ça, et ils avaient du coup le monopole de la détection et le suivi de ces satellites. Donc eux, en gros, ils avaient l'entièreté de la vision, la vérité, ils avaient la vérité, et les États, les autres États n'avaient pas la vérité. Donc ça posait un problème un problème tout court. Donc les Français en premier, assez rapidement, bon, avec les Russes, hein, mais les Français en tant que plus petit pays ont réagi assez rapidement, ont utilisé leur propre radar, ce qui a permis de rééquilibrer les choses là, et aussi pousser la dimension de coopération internationale dont parlait Benjamin. C'est un moment où on se rend compte que l'espace n'appartient pas qu'à un État et que ça se fait forcément dans la coopération, sinon les tensions sont trop grandes. Donc maintenant, pas mal de pays ont des systèmes de surveillance et maintiennent un équilibre un petit peu dans tout ça, ce qui est très positif dans le sens où c'est nous on le sent aussi hein, au niveau réglementaire, les choses vont dans le bon sens. On pourra parler de débris et de collisions et voilà, mais pour une fois dans l'histoire de l'humanité, personne n'a intérêt à tout le monde a intérêt à se comporter correctement quoi. Donc bon, okay. Voilà.
Mais tout le monde ne le fait pas.
Oui, ça c'est.
C'est une autre histoire, complètement.
Mais un satellite, en fait, c'est un peu comme une voiture. Hein. C'est un véhicule spatial qui a une sorte d'immatriculation. Il est déclaré, donc il a un numéro international. Ouais. Donc voilà, il est connu et identifié.
Ok, très bien. Et donc dans les prochains mois, les prochaines années, c'est quoi les objectifs de Unseen Labs ? Est-ce que c'est justement de rester sur la surveillance maritime ou de créer de nouveaux satellites ?
Alors déjà, la prochaine étape, c'est vraiment d'agrandir notre constellation de satellites. C'est-à-dire que l'année prochaine, on est déjà en train de travailler sur quelques tirs. On verra en fonction des fusées combien. C'est une problématique d'accès à l'espace, c'est encore autre chose. Donc d'abord, on va renforcer le service de surveillance maritime. L'idée, c'est de vraiment montrer et finir de démontrer ce qu'on a annoncé il y a quelques années. C'est la viabilité du service et notre capacité de l'opérer en tant qu'entité propre. Après, comme disait Jonathan, notre charge utile est capable d'écouter des émetteurs, donc il y a évidemment des choses qui seront
duplicables.
Mais là, on a quand même un gros focus sur la surveillance maritime. L'idée, c'est pas de se disperser. On est une PME de 10 personnes. On a quelque chose qui marche bien pour l'instant, donc poussons ça. Donc là, vraiment, les prochaines étapes, c'est vraiment accroître cette constellation dédiée sur la surveillance maritime.
Et là, on en vient à l'aspect de cycle court de développement, c'est-à-dire que classiquement, un satellite. Au sens large, je veux dire, habituellement, c'est plusieurs années de développement, voire plus de 10 ans. Nous, nos cycles sont très courts, donc on peut se permettre en fait, d'améliorer à la marge chaque satellite. C'est-à-dire que chaque satellite lancé dans l'espace aura une petite amélioration qui ne met pas, en danger ses fonctionnalités principales. Mais qui... voilà, donc on a la chance de pouvoir étendre le service tout en améliorant le service et explorant des choses. Donc mettre des charges utiles secondaires pour de tests, pour explorer d'autres types de services. Voilà. Donc c'est vraiment très dynamique. On pousse la R&D en continu tout en étant très réaliste sur le fait qu'on a un beau marché à couvrir et pour en tirer de la valeur. Quoi.
Ok. Et donc, on va passer sur la partie inspiration-conseil. quels sont les entrepreneurs, personnalités qui vous inspirent ou des boîtes qui vous inspirent aujourd'hui ?
Je peux commencer ? Moi, j'étais très impressionné par Hugues Mély, en fait, à la base. Comme je disais, je travaillais chez Niji.
Oui.
Et c'est vrai que même en revenant à Rennes, en fait, on l'a retrouvé et on est souvent, on dialogue assez souvent. C'est toujours un plaisir de le croiser, toujours de bons conseils. Voilà, donc c'est déjà ça. Je pense que Mély sur Rennes, c'est sympa.
Moi, je dirais qu'on en revient à ce que disait Benjamin tout début, hein, mais je pense que Gilbert, c'était quand même.
Gilbert Kébélic,
ouais. Était à un moment la démonstration qu'une petite boîte à Rennes puisse aider une boîte comme Google.
Ouais, enfin, il a été racheté par Google.
C'est ça. En fait, c'est aussi une prise de conscience que on a beau être 10 à Rennes, je pense que personne en Californie ne connaissait Rennes avant. puisse vraiment aider une boîte gigantesque comme ça. Donc c'était un cas concret qui nous a un peu poussé aussi à créer Unsynlabs. Donc ça, c'est vraiment pour parler local.
Un autre local aussi, c'est notre expert comptable, notre cher expert comptable Eric Lagadec, qui quand même est aussi un entrepreneur. Et en parlant de personnes qui donnent sa chance à des projets, lui, il nous facture, hein, Eric. mais voilà, il est là, il voit des petits gars débarquer avec un objectif assez incroyable et il se pose des questions, évidemment, mais je veux dire, il nous laisse, il se moque pas de nous, quoi. Il nous challenge dans le bon sens. C'est précieux, ce genre de personne.
C'est drôle parce que Mathieu Becher de Klaxoon m'avait parlé aussi d'Eric Lagadec.
Ouais, mais tout ça, tu sais, c'est un bel écosystème dans lequel, effectivement, on s'est tous insérés. C'est des gens avec qui on a plaisir à travailler, à collaborer. Donc, c'est pas pour rien que ça se recroise à un moment donné.
Oui, logique.
Voilà. Et donc, moi, sur les entrepreneurs qui m'inspirent tous les jours, j'en ai tellement qui m'inspirent tous les jours. Mais vraiment. Voilà, donc c'est une vraie chance. Et puis je vais en citer deux, Jonathan Galic et Clément. Voilà.
Ok. Et donc sur la partie conseils, est-ce que vous avez des conseils à donner à quelqu'un qui souhaiterait demain monter une boîte dans l'espace ?
Alors, dans l'espace, déjà, en fait, on en revient toujours aux mêmes choses, hein. Faut faire ce qu'on sait faire. C'est peut-être un peu bateau, on l'a répété peut-être un peu trop souvent, hein, mais dans l'espace,
c'est fondamentalement, c'est pas une aventure entrepreneuriale si différente d'une autre, hein. C'est une barrière mentale à vaincre.
Ouais.
Donc le fait d'avoir travaillé dans le spatial, au bout d'un moment, ça aide à vaincre cette barrière. On l'a, même nous, on l'a encore un petit peu, hein, je crois. Donc déjà, il faut pas avoir peur. Et après, il faut caler son mode de fonctionnement sur toutes les autres entreprises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison, que ce soit au niveau business model, au niveau développement, au niveau façon de faire les choses. Il ne faut pas que ce soit fondamentalement différent d'une autre boîte, sinon je pense qu'on se trompe. C'est assez spécificité, hein, mais bon.
C'est important que tout ce que tu dis, c'est-à-dire que faire du spatial, c'est très bien, mais si demain c'est dans le cadre d'une entreprise, il faut qu'il y ait un objectif de business. Aucun segment à trouver et dans le faire ce qu'on sait faire, c'est justement trouver là où on apporte de la valeur et pas tout réinventer, faire du spatial en voulant tout réinventer. Voilà, donc c'est bien de.
Donc c'est important, c'est de dire que nous, c'est du space as service, c'est-à-dire qu'on rend un service à nos clients et au final, ce qu'on vend, c'est des cartes de localisation de navires en mer. Il faut bien imaginer que nos clients, que ça vienne de l'espace ou d'ailleurs, pour eux, c'est neutre. Hein. C'est un service de cartographie de bateau. Ça pourrait venir d'un drone, ça pourrait venir du bord de côte. On utilise de manière simple un satellite parce que c'est très pratique pour voir au milieu des océans et pour faire le tour de la Terre en 90 minutes, il n'y a pas beaucoup mieux. Mais notre service final, comme disait Benjamin, c'est un besoin exprimé par des clients.
Totalement.
On y répond avec du spatial et on pourrait y répondre avec autre chose. Le fait que c'est une machine-outil dans nos satellites.
Je trouve que le spatial, c'est plus fun aussi, mais voilà.
Aussi.
Et en parlant de domaine fun, etc., on espère bien aussi que c'est un petit projet, une petite aventure qui va donner des idées à d'autres.
Exactement.
Avec à Rennes, en Bretagne en général, c'est pas pour être chauvin ou quoi que ce soit, mais c'est bien aussi que l'écosystème qui a accueilli ce projet-là grandisse pour le bien de tous, hein, que demain, il y ait des ingénieurs qui aient des compétences spatiales spécifiques. Donc il y a d'autres entreprises très sympas sur Rennes, hein, Sir Links notamment, hein, qui est une société à citer en exemple. Et on espère bien que demain, cet écosystème va se développer et que Rennes soit une composante du domaine spatial en France. Mmh. Voilà, y a pas de raison.
Et justement, vous êtes les premiers en Europe à faire ça ?
Alors, sur de l'opération de cube satellite par une boîte privée, oui. Mais après, il y a plein d'autres gens qui sont opérateurs satellites. Hein. On n'est pas les premiers, oui. On n'a pas les plus gros satellites, on n'est pas la plus grosse société. Non. Faut pas. Mais oui, on est assez fiers de ce qu'on a pu faire. Après, je voulais juste rebondir sur l'écosystème Rennes étendu à la Bretagne. Il y a d'autres sociétés à Rennes. Hein. Par exemple, on connaît bien Carmap. C'est une petite société qui sont très bien. À la pépinière, qui eux font de l'analyse de données spatiales issues de l'ESA et qui, pareil, ils ont un super service. Et c'est des gens qui ont apporté le spatial en tant que service pour leurs clients. Et en Bretagne, de manière plus générale, nous, on fait partie aussi d'un booster qui s'appelle More Espace, qui est basé à Brest, donc sous l'égide du pôle mer Bretagne-Atlantique. Et c'est là où vraiment on se retrouve aussi toutes les sociétés de Bretagne du spatial. Et quand on commence à regarder qui en fait partie, le nombre de sociétés qui font du spatial en Bretagne, on se rend compte que l'écosystème est déjà très, très, très actif. Il y a des gens qui vont fabriquer des bouts de coiffe de fusée, il y en a qui vont fabriquer du câblage, il y en a qui vont faire du service de météo depuis l'espace.
De l'électronique spatiale.
Et en fait, il y a déjà un écosystème très, très dynamique. Alors c'est vrai qu'opérateur satellite, il n'y en avait pas jusque-là, mais il y avait à peu près toutes les autres étapes de spatial en Bretagne.
C'est marrant, en partant un petit peu en voyage, en France, personne ne connaît la Bretagne comme région du spatial. On cite l'Île-de-France ou Toulouse. Quand on passe au niveau européen, on est identifié en tant que région de France qui fait du spatial. Et c'est intéressant, même nous, on l'a découvert.
Okay.
Il y a aussi Alcyon en Bretagne.
C'est Alcyon, je pensais, qui a des belles choses aussi sur des lanceurs.
Et peut-être dire un petit mot sur les ABIC.
Oui. Alors les ABIC, c'est, pour faire simple, c'est des programmes d'incubation issus de l'ESA, donc l'Agence Spatiale Européenne. Donc c'est fait en collaboration, c'est géré par le CNES en fait en France, notre agence spatiale locale. L'année dernière, il y avait donc les ABIC, c'est régional. Il y en avait déjà dans le sud. Il y en a un qui a été créé il y a un an et demi maintenant, je crois, ou un an, qui s'appelle les ABIC Nord de France, qui est géré notamment par des gens de Brest et qui regroupe, qui permet d'incuber ou mettre en commun toutes les entreprises du spatial.
Super.
Basées en gros en nord de France. Donc géographiquement, c'est pas extrêmement limité, mais voilà. Donc nous, on a la chance d'y être incubé depuis le mois de septembre.
Okay.
On est loin d'être les premiers. Mais c'est des choses qui permettent de fédérer vraiment tout un écosystème. Sous l'égide du CNES et de l'ESA, donc c'est quand même des belles références, hein, on va pas s'en priver. Et voilà, ce qui permet de donner une logique à tout cet écosystème.
Et c'est des gens qui ont tout compris aussi dans le sens business. C'est-à-dire que BIC, c'est le Business Incubation Center. On parle de technologie, c'est des gens qui apportent du support technologique, mais aussi du support de business, du support à la vie de l'entreprise, au développement. Toute la chaîne de valeur est abordée.
Ok, hyper, hyper intéressant. Dernière question, quels sont justement les entrepreneurs, les boîtes que vous me conseillez pour des prochains podcasts ? Gilbert Kabilic, du coup.
Je pense que tu es inévitable. Et puis j'ai d'autres noms en tête, tu les as déjà croisés. Donc,
oui.
Voilà. Alors,
Carmap.
Dans le spatial, avec Carmap. Après, il y a quelqu'un aussi qu'on apprécie beaucoup. Hein, je crois qu'ils sont deux qui ont quand même les gens de Securicy. Qui sont déjà passés peut-être
Securicy, c'est Ascentric qui est déjà venu ici au village.
C'est vrai qu'il s'intéresse au projet aussi,
quelqu'un de bon conseil aussi, qui vraiment nous a apporté des choses
depuis le début.
Je pousserais bien le nom d'Hassan.
Super, très bien. Merci à tous les trois d'avoir échangé pendant cette petite heure. Et puis à bientôt sur Serial Entrepreneur.
Merci beaucoup, à très bientôt.
L'épisode est terminé, merci de l'avoir écouté en intégralité. Pour ma part, j'ai encore besoin de vous. Et oui, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note sur Apple Podcast et à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite. Vous pouvez également m'envoyer votre feedback par mail à françois@serial-entrepreneur.fr. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bises et à bientôt.